projet d'intérêt général en portant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Rambouillet en vue de l'aménagement du futur secteur de la Giroderie, monsieur Petitpré.
Oui, alors, tout le monde sait où est la Giroderie, puisqu'on en a déjà parlé. Donc, par délibération du 17 février 2022, le conseil municipal a prévu l'organisation d'une concertation préalable relative à l'aménagement futur du secteur de la Giroderie. La concertation préalable a été menée entre le 1er mars 2022 et le 29 septembre 2022. Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable et décidé de l'engagement d'une procédure de déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU pour permettre l'aménagement futur du secteur de la Giroderie par délibération du 29 septembre 2022. Une des raisons pour lesquelles on est parti par cette procédure-là, c'est que ce secteur faisait l'objet d'une OAP au niveau du PLU et que cette OAP programmait une partie au sud de logement et une partie au nord d'activité économique. Et comme nous avions besoin en particulier de logements sociaux, nous avions orienté et réorienté cette OAP avec un porteur de projet pour construire que du logement sur cette zone-là, ou à 95% du logement. Et donc, il fallait faire cette transformation au niveau du PLU. La décision d'aménager ce secteur aujourd'hui non construit a été motivée par diverses raisons relevant de l'intérêt général, dont l'ambition politique de redynamiser le secteur tout en produisant des logements répondant aux besoins des ménages rambolitains et aux objectifs de mixité sociale au sein du nouveau quartier, avec 30% de logements locatifs sociaux, auxquels s'ajoutent environ 10% de logements en bail réel solidaire, BRS. La valorisation d'un site stratégique enclavé entre une zone commerciale et une zone pavillonnaire et des équipements. Une logique de réunification de la ville tout en affirmant le rôle stratégique de lien majeur de la RD 906 rue de la Louvière, et ce à travers un mode de développement urbain cohérent et durable. Et le développement d'un quartier contemporain et vertueux sur le plan environnemental permettant une meilleure qualité de vie des rambolitains à travers l'aménagement d'un quartier durable. Tout ça a été exprimé lors du PADD du PLU précédent, et donc dans la détermination de l'OAP. Donc ce n'est pas une invention récente. Les points du PLU nécessitant une évolution afin de permettre la réalisation du dit projet étaient les suivants. La procédure de déclaration de projet prévue à l'article L300-6 du Code de l'urbanisme est utilisée afin d'étendre la zone UB, voisine du secteur de projet. Donc la zone UB, c'est actuellement les propriétés appartenant à M. Le Sévillère, qui est une entreprise de travaux publics, voisine du secteur du projet, ayant une vocation d'habitat de type faubourg traditionnel, sur ce terrain classé en grande majorité en zone AU, à urbaniser, à travers la création de deux sous-secteurs UBC, concernant prioritairement des logements collectifs et des équipements d'intérêt collectif, et une zone UB petit D pour des logements individuels sur la seule emprise du projet. Cette évolution entraîne à ce titre la suppression des zonages AUI et AUB sur le plan de zonage et des zonages AUD et UB sur l'ensemble de l'emprise du site exclusivement, la modification du règlement de la zone UB par l'intégration de dispositions réglementaires propres au projet à travers la création de deux sous-secteurs UBC et UBD, la modification graphique de l'axe 3 du PADD au droit seul du site de la Giroderie à travers la suppression de l'objectif d'accompagnement du développement industriel et tertiaire sur le site. Cette suppression est également intégrée au sein de la carte de synthèse des sites de projet du PADD nouveau. Les modifications graphiques et écrites de l'OAP, aménagement et mise en valeur des quartiers Est aux abords de la rue de la Louvière, de la Villeneuve à la Clairière, afin de permettre le développement d'un programme largement résidentiel plutôt que d'activités économiques sur le site. La suppression de l'emplacement réservé numéro 37, création d'une voie de liaison paysagée entre la RD 906 et le cimetière des Éveuses, sur sa partie localisée exclusivement sur le site de la Giroderie. Je rappelle que cet emplacement réservé était au départ créé pour une voie de contournement de la Nationale 10 entre la partie nord et sud de la ville. Les suppressions ajoutent d'éléments portant sur le site de la Giroderie et sa programmation future et l'insertion d'une présentation des éléments réglementaires nouveaux au sein de rapports de présentation du PLU. Par arrêté Apur du 2 juin 2023, Madame le maire a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration de projet d'intérêt général qui s'est tenue du 23 juin 2023 au 24 juillet 2023, soit pendant 31 jours consécutifs, disposition de concertation mise en œuvre. Affichage en format A2 sur le site du projet en mairie de Rambouillet sur l'avis portant la connaissance du public des modalités de déroulement de l'enquête publique. Avis d'enquête publique publié sur le site internet de la ville de Rambouillet. Avis d'enquête publique publié dans 2 journaux régionaux et locaux diffusés dans le département des Yvelines, soit Le Parisien le 8 et 27 juin et Toutes les Nouvelles 78 le 7 et le 28 juin. Durant l'enquête publique, M. Fouché, commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, a tenu 4 permanences le 23 juin de 9h30 à 12h30 à la Vénerie, le samedi 1er juillet de 9h à 12h à l'Hôtel de Ville, le 12 juillet de 16h à 19h au centre de la Vénerie et le 24 juillet de 14h30 à 17h au centre municipal de la Vénerie. Mise à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête du dossier d'enquête publique en format papier ou dématérialisé avec registre papier et numérique. Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, courrier adressé à son attention à la mairie de Rambouillet ou par courrier électronique. Le bilan de l'enquête publique. Les observations formulées sur le projet se répartissent en 3 thèmes majeurs, dont un est considéré comme hors enquête, à savoir thématique relevant du projet s'attachant à des observations liées à la densité, 18 observations, le logement social, 6 observations, la végétalisation et la biodiversité, 15 observations, l'inondation des caves, 7 observations, et la circulation rue de la Giroderie et autour du projet, 16 observations. Thématique induite par le projet s'attachant à la capacité des équipements publics à accueillir une nouvelle population, 7 observations, et les transports publics, 5 observations. Contribution jugée hors enquête concernant le problème de mixité sociale scolaire, 2 observations, et la demande de logement dans l'opération, 2 observations. C'est des gens qui voulaient déjà réserver des logements dans l'opération. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendus le 22 août 2023. Celui-ci donne un avis favorable à la déclaration de projet d'aménagement du secteur de la Giroderie en portant mise en compatibilité du PLU avec les recommandations suivantes. Que la commune, outre la procédure dématérialisée de concertation qu'elle entend lancer, organise en l'annonçant suffisamment à l'avance pour que tous en soient informés, une réunion publique d'explication sur le dossier pour contribuer à désamorcer telle ou telle tension ou incompréhension apparue lors de l'enquête publique. Qu'en liaison avec le maître d'ouvrage que la mairie communique sur le dispositif BRS, donc bail réel et solidaire, que la commune prenne en compte les remarques énoncées par la direction départementale des territoires DDD dans sa note d'observation en date du 21 juin 2023 sur les articles du PLU modifiés par ce projet. Que la commune veille au respect des engagements du maître d'ouvrage du projet sur l'implantation des ralentisseurs le long de l'axe principal et le maintien d'un minimum de 30% de l'emprise du projet en surface perméable. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir déclarer d'intérêt général le projet d'aménagement prévu sur le site de la Giroderie tel défini dans la déclaration de projet et présenté en enquête publique, approuver la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme à travers l'adoption de la déclaration de projet en tenant compte des modifications issues des phases de consultation rappelées dans l'exposé, adopter conformément à l'article R153-15 du Code de l'urbanisme la déclaration de projet en portant la mise en compatibilité du PLU Rambouillet pour permettre l'aménagement du site de la Giroderie. Autoriser Madame le maire et son adjoint ou son adjoint délégué à l'urbanisme à prendre toute disposition et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Merci, Monsieur Petitpré. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. Vous n'allez pas être étonné, mais on va voter contre. Il y a quand même un élément qu'on a besoin de connaître. A priori, à la commission de l'urbanisme, on a parlé de la société d'entreprise Sévillier, qui se trouve donc à proximité de cette zone, qui a priori va arrêter son activité, et que sur le site de Sévillier, on construirait une 50aine de pavillons. Est-ce que c'est ça ? Ça veut dire c'est 262 plus 50 ?
L'objet de cette délibération aujourd'hui, c'est de mettre en compatibilité le PLU et l'OAP
je suis bien d'accord.
Les terrains qui sont aujourd'hui acquis par la société PER, promoteur sur cette zone-là et sur les propriétaires dont le propriétaire principal est le groupement Leclerc. Donc, je tiens à dire que ce dont vous parlez, c'est une opération autre. Ce n'est pas l'objet de cette délibération.
Oui, mais cette opération haute ne peut se faire que si on passe cette décision. Sinon, si vous ne transformez pas
si nous ne transformons
les zones
du PLU,
pas, l'autre
opération
pas
pourra se faire quand même.
Bon,
c'est deux opérations
cas,
indépendantes. La seule dépendance que j'y ai accordée, c'est d'essayer de se concerter entre les deux promoteurs qui puissent avoir là, de manière à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi au niveau des raccordements et des voiries. Donc c'est certainement une opération de concertation entre les promoteurs, de manière et que je veillerai à faire appliquer, de manière à ce que ce ne soit pas incohérent et que les routes créées n'aboutissent pas. C'est comme si vous partiez pour faire le tunnel sous la Manche de la France et de l'Angleterre et que vous n'aboutissiez pas au même endroit.
Non, mais on avait déjà voté contre parce qu'on considérait que le projet n'était pas forcément abouti dans son intégralité, que ça allait faire des surcharges d'habitation sur ce lieu qui est déjà aujourd'hui un secteur très difficile au niveau de ses circulations, que les habitants sont pas contre le fait d'avoir des logements, mais ils aimeraient que ça soit des logements peut-être un peu plus denses, pas denses dans le nombre, mais denses au niveau de ces espaces. Et que très sincèrement, nous avons peur que cette zone qui était une zone de biodiversité, de calme, de tranquillité, c'était une zone qui était importante, c'est un poumon de respiration à l'intérieur de la ville, va se transformer en zone d'activité forte humaine, entourée de la 10. D'ailleurs, il y a un autre projet qui parle des logements sociaux et qui me pose question, qui est de l'autre côté de la 10. L'entreprise Les Marbres Condado Anciens qui font partie a priori d'un projet d'extension c'est noté dans vos documents, mais on les ressortira tout à l'heure. Donc voilà, j'ai peur qu'il y ait une densification très très importante au niveau donc de l'accès Giraudrie et que donc nous on considère que ça doit être retravaillé, redéfini et donc on vote contre.
Alors, Monsieur Bernard, je me permets d'intervenir parce que je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une logique dans sa façon de présenter les choses. Nous parlions tout à l'heure du logement et de notre obligation à faire du logement. Ouais. Vous êtes pour le fait que nous créions du logement social.
Oui,
au moment où nous vous présentons un projet qui, justement, va favoriser du logement social intégré, totalement intégré, avec une mixité sociale, vous nous dites, nous votons contre. Il est un petit peu compliqué de comprendre ce type d'attitude. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation. C'est-à-dire que on ne peut pas et vouloir de la densification et permettre à des personnes en plus rambolitaines, parce que là, sur ce projet particulièrement, comme ça vient de vous être présenté sur la délibération précédente, enfin sur la présentation du rapport précédent, il s'agit de la SEMIR, c'est-à-dire que nous sommes assurés d'avoir le maximum de possibilités d'attribution, et donc pour nos rambolitains, et nous dire que finalement vous vous opposez à ce projet-là. J'avoue que
je n'ai pas une personnalité schizophrène et je n'arrive pas bien à m'adapter. Je comprends parce que, bien évidemment, on est pour les logements sociaux et on est pour la mixité. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie qu'il y ait un développement sur un espace réduit, énormément de construction. Voilà, c'est aussi de prendre en considération l'habitat des futurs propriétaires et qu'ils ne se retrouvent pas les uns forcément contre les autres. Et quand vous dites que la SEMIR ne participe plus, j'ai cru comprendre que c'était I3F qui reprenait la main parce que la SEMIR n'était pas capable de faire des maisons
individuelles. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est la SEMIR.
La SEMIR fait une partie. Alors, c'est simplement sur la partie Sévillier que c'est I3F qui prendrait la main.
Non. Il n'y a pas de reprise en main de I3F. Il y a des programmes sur la ville qui sont pris par I3F, comme il y a des programmes sur la ville qui sont pris par Séquence, comme il y a des programmes qui sont pris par Domnis, et comme là, en l'occurrence, on a mis en avant la CEMIR. Donc, sur ce programme-là, effectivement, j'en ai parlé dans le rapport CEMIR, il y a 88 logements qui sont attribués à la CEMIR. Mais il n'y a pas de transfert. I3F investit à l'hôtel Labiche. I3F investit sur
l'hôtel de la Motte.
L'hôtel de la Motte. I3F a d'autres projets en cours rue de Nôtre, mais on ne parle pas de cela.
Et vous précisez, alors...
C'était Séquence ou 3F, a priori, ce qui s'est dit en commission d'urbanisme. Sur la zone de Sévillier, 50 logements, Séquence ou 3F qui ferait ça. Vous parlez de deux promoteurs.
C'est deux choses différentes. Le terrain de M. Le Célivet appartient à M. Le Célivet. Il vend à qui il veut. Nous, on est là que pour guider.
Oui, mais en modifiant le PLU, donc la partie industrielle, cette entreprise-là est sur une partie industrielle. À partir du moment où on modifie, ça devient une zone...
Ça n'est pas... Aujourd'hui, cette zone-là, c'est une zone UB, constructible, en termes de logement et pas d'activité industrielle. C'était une activité industrielle jusqu'à présent, et donc il avait le droit de continuité de son activité industrielle. Il a décidé de vendre, et ne peut vendre que pour une activité de logement.
Mmh. Très bien. Et justement, vous précisez, Monsieur Bernard, que... Encore une fois, cette zone, parce que j'entends et je lis des contre-vérités, ce terrain n'a jamais été une zone naturelle. C'est une zone à urbaniser. Voilà. Donc, c'est important de le dire parce que nous ne faisons pas, et de toute façon, avec la loi ZAN, nous ne pourrions pas le faire si ça n'était pas une zone à urbaniser. Et quand vous dites que nous pourrions revoir ce projet-là pour moins le densifier, c'est déjà un projet qui a subi une taille, je peux vous assurer, sévère dans le nombre de logements. Et je vous assure, Monsieur Bernard, que lorsque nous avons une fois par semaine un rendez-vous avec les services de l'État qui nous pressent, parce que eux, sur une zone comme ça, ils sont capables de nous demander 400 à 500 logements, nous restons dans quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable. La densification, Monsieur Bernard, il faut le savoir, c'est quelque chose qui va nous être imposé par l'État si nous ne faisons pas ce type d'opération. Et tout à l'heure, là, juste après, nous allons avoir ce contrat de mixité sociale. Si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas de telles opérations, il est évident que nous allons perdre totalement notre souveraineté sur notre commune et l'État prendra la main définitivement sur les projets. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus une once de discussion. Et quand ils nous feront bâtiments, parce qu'on sait, nous avons encore eu une réunion cette semaine, pas plus tard qu'hier, avec l'État, quand ils souhaitent des bâtiments R+4, R+5 est très dense, je peux vous dire qu'on se bagarre tous les jours contre cela. Donc, il faut à un moment donné, lorsque nous sommes sur une zone qui est une zone à urbaniser, avoir un projet qui prouve à l'État que nous avançons, que nous avons des avancées vers l'objectif des 25%, parce que sinon, l'État prendra totalement la main sur la ville de Rambouillet, et je peux vous dire que dans ce cas-là, le paysage de la ville de Rambouillet sera totalement changé.
Pour appuyer cette démarche, sachez qu'on m'a proposé 1000 logements sur Smart City. Un promoteur nous avait proposé 1000 logements sur Smart City, qu'on a refusé, bien sûr, et qu'on a bloqué pour pouvoir faire l'opération de l'hôpital. Sur le secteur de la prairie, à côté de la gare, 400 logements. Et ça, c'était l'État qui nous les proposait. Oui. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le projet de la Giroderie tel qu'il vous est présenté, avec un épanelage à R+2, R+3 pour les plus hauts et des maisons individuelles derrière, c'est quelque chose qui est tout à fait conforme à l'identité du territoire, avec des balcons pour tout le monde, comme vous le demandiez tout à l'heure, de manière à ce qu'on s'ouvre vers l'extérieur, vers la nature, etc. Donc ce n'est pas ce que vous décrivez comme quelque chose d'épouvantable. C'est un projet qui est extrêmement vertueux dans sa présentation, qui est extrêmement vertueux dans son aération, qui est extrêmement vertueux dans le respect de l'environnement autour. Et donc, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux, actuellement, par rapport à une taille de ville comme Rambouillet et l'acceptation sur Rambouillet. Sachez que si on ne fait pas ça, c'est autre chose qui va arriver et c'est beaucoup plus grave.
Oui, mais on est d'accord que ça va être une densification assez importante de ce quartier. Que ce quartier est quand même très compliqué au niveau de sa circulation, que je rappelle qu'il y a une gendarmerie qui doit se créer, une antenne de la gendarmerie qui doit se créer de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas le fait qu'on ne veuille pas, c'est pas le fait. Très sincèrement, les logements sociaux de mixité, bien évidemment qu'on est d'accord. On dit simplement 262 logements sur cet espace de 3 hectares. On a vu les plans, moi, je suis désolé, mais c'est des petites maisons amenées les unes derrière les autres. J'ai vu des programmes de cette nature. Ce n'est pas des plus agréables, très sincèrement, pour les gens qui y habitent. Ensuite, si jamais la partie sévillier se fait avec 50 constructions, 50 logements supplémentaires, j'ai vraiment peur que la densification soit importante. Alors, ce n'est pas le fait qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il faille changer, on est d'accord, mais pas sur 262 logements.
Attendez,
pas
plus 50 vous dites logements. Que c'est inhabitable, mais Château-Bazin, c'est habitable que je peux... C'est
la Croisée des Bois aussi. Hein.
C'est pas plus dense que là-bas.
La Croisée des Bois est un peu plus. Respire un peu plus que Château-Bazin.
Et je vous rappelle qu'il faut aussi avoir des logements qui soient accessibles pour les gens. Au prix de l'immobilier,
exactement.
Si vous voulez que des grosses propriétés riches.
Voilà, c'est un autre problème au niveau de Rambouillet, de son prix de l'immobilier. Ça, c'est clair.
Il faut de l'accessibilité.
Les gens partent à Gazeran parce que de toute façon, ils ne peuvent pas construire ici. Et les jeunes ne peuvent pas le faire.
Mais ça fait partie aussi de ces programmations sur lesquelles nous sommes extrêmement vigilant, et justement, si nous introduisons du BRS, c'est pour permettre ce parcours résidentiel à des personnes qui peuvent habiter à un moment donné dans un logement social puis conventionné, puis qui n'est plus conventionné, et enfin accéder à la propriété. Donc ça fait partie aussi de ce que nous suivons pour permettre aux Rambolitains, entre autres, d'avoir un parcours résidentiel.
Mais si je reprends l'exemple de la rue Lamotte, 34 appartements, il y a un espace extraordinaire. C'est pas si dense que ça, c'est des tout petits immeubles, il y a beaucoup d'espace autour, il y a une conservation de l'architecture ancienne, donc je trouve ça très très bien, on a réhabilité les anciens.
La première esquisse qu'on m'a présentée, c'est à 65 logements, on n'est pas du tout l'esquisse définitive. Mais je vous signale quand même que l'architecte des bâtiments de France est passé par là et qu'on n'est pas du tout dans la même zone. Donc il fallait absolument trouver une solution à un bâtiment qui appartenait au CMN et qui appartient toujours au CMN et que l'aide de l'État a été énorme pour pouvoir dédensifier dans un secteur patrimonial remarquable. Ce n'est pas comparable.
Oui, mais dans le rapport des comptes, on dit qu'on peut s'appuyer aussi sur un texte de loi qui permet, quand on se retrouve dans ces situations de sites remarquables, où on peut justifier le fait qu'on peut construire quand même. Donc, je ne sais pas, moi j'ai repris, la Cour des comptes cite un article, je l'ai ressorti, et donne la possibilité de, suivant un certain nombre de conditions, de pouvoir faire des logements sociaux alors qu'on est près de sites remarquables.
Mais donc, on le fait,
mais
on le fait, on vient de délibérer pour une subvention, justement, pour boucler un budget de logements sociaux en sites patrimoniales remarquables. C'est-à-dire que, d'une part, nous, on y contribue. D'autre part, le CMN qui met à disposition un terrain beaucoup moins cher que s'il avait valorisé sur du logement libre, on participait aussi. Et puis, il y a eu des subventions extérieures, du département, etc. Donc, bien évidemment qu'on y arrive. On y arrive parce qu'on veut faire de la mixité sociale en réhabilitant des immeubles en centre-ville. Je vous signale quand même qu'il n'y a pas que là. Aujourd'hui, l'hôtel de Toulouse, il est aussi comme ça. Aujourd'hui, la rue Lachaud, il y a beaucoup d'appartements sur lesquels on a des difficultés à réhabilitation et qu'on travaille pour pouvoir la réhabilitation et les aides ne pourront arriver que sur le logement social. Donc voilà, on le fait. Mais là, la densité est beaucoup plus forte. Là, on a l'occasion de pouvoir apporter, et c'est d'ailleurs prévu depuis longues années, puisque c'était déjà marqué au PLU précédent, donc depuis 2012. Euh, donc, Donc c'est bien quelque chose qui était pensé dans une continuité dans lequel il y avait ces constructions au niveau de la Giroderie, dans lequel il y avait la dernière tranche de la Louvière, de la Ferrière, et cette continuité qu'il devait y avoir. Et il y avait même des programmes pour pouvoir construire un lotissement complet en face, qu'on a refusé, qu'on a bloqué en zone A.
Oui, je vois très bien le... Mais je, quoi, moi, je suis désolé, mais...
Mais c'est votre opinion, vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous faites ce que vous voulez. Hein.
Densité, ça veut dire 500 personnes minimum, hein, je ne compte pas les enfants, ça veut dire 260 voitures, et je ne dis pas qu'il y en aura deux et tout ça, et on est dans un quartier très compliqué. Donc, voilà, je pense qu'on aurait dû essayer de travailler, bien entendu, du social, de la mixité réelle, et faire en sorte, donc 50%, et pas 30%. Aujourd'hui, on est toujours sur les textes des 30%. Il aurait été intéressant peut-être de faire 50% de mixité, donc d'augmenter le logement social, mais sur une part plus réduite de logements.
Après, c'est compliqué de parler de mixité sociale. Ah, et ça, je peux vous le dire.
Oui, oui.
C'est... Monsieur Dos Santos.
Bonsoir Madame le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors au préalable, je souhaite juste rappeler que la loi SRU va fêter ses 23 ans là au mois de décembre. Donc elle ne date pas d'hier. Maintenant, Monsieur Petitpré, vous évoquez un projet relevant de l'intérêt général, mais à la lecture de l'avis rendu le 6 septembre dernier par la mission régionale d'autorité environnementale, on comprend que ce projet aura un impact non négligeable sur l'environnement et la santé des riverains. L'autorité environnementale émet donc quelques réserves et établit une liste de 18 recommandations, dont les principales sont les suivantes. Donc 1. Mieux justifier ou à défaut reconsidérer le choix d'aménagement retenu dans le cadre du projet en présentant des solutions alternatives de moins d'impact sur l'environnement et la santé humaine. 2. Renforcer les mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet sur la biodiversité et les habitats naturels, notamment en réduisant l'emprise du projet sur sa partie sud afin de préserver la zone humide ainsi que les espèces d'insectes et d'oiseaux qui y sont identifiées. 3. Démontrer l'efficacité prévisible des mesures de réduction envisagées et l'absence d'impact résiduel du projet sur la plupart des espèces présentes. 4. Préciser la localisation et les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation envisagées pour certaines espèces et les zones humides et en dénombrer l'équivalence, voire le gain fonctionnel attendu. 5. Reprendre l'analyse de l'état initial de l'environnement sonore du secteur concerné par le projet et renforcer en conséquence les dispositions permettant d'assurer des niveaux d'exposition des futures populations à une pollution sonore inférieure aux valeurs retenues par l'Organisation mondiale de la santé. 6. Présenter une analyse des pratiques de déplacement et du potentiel de report en faveur des mobilités alternatives à l'automobile dans le cadre d'une stratégie favorisant le développement de ces mobilités. 7. Et je vais m'arrêter là, réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre susceptibles d'être générées par le projet, y compris en termes de stockage-déstockage carbone lié à l'urbanisation du secteur concerné. Donc, à la lecture de ces recommandations, il nous apparaît évident que le projet de la Giroderie ne peut être réalisé en l'état et que des modifications sont nécessaires. L'intérêt général, oui, mais pas au détriment de la santé des Rambouillétains.
Alors, Monsieur Dos Santos, je suis au même titre que vis-à-vis de Monsieur Bernard, très étonnée de votre opposition à ce projet-là. Vous donnez des recommandations qui sont données par la MRAE, pardon, que la DDT réfute. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une imposition de la part de l'État qui est gérée par un gouvernement que actuellement vous soutenez.
C'est pas aujourd'hui, depuis 23 ans, madame.
Non, je ne parle pas de la loi SRU, je parle des pressions actuelles de l'État. La loi SRU existe, mais je peux vous dire qu'on n'a jamais connu, la pression qui est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, par tous les services, et que aujourd'hui nous subissons les atermoiements des services sous la houlette du gouvernement actuel, qui, pour un des ministères, va nous demander une densification exagérée sur la ville, et que le ministère qui est à côté contredit immédiatement. C'est insupportable parce que même au sein d'un même ministère, M. Dos Santos, quand nous sommes face, parce que nous sommes face toutes les semaines face à ces services, eh bien, d'une porte à l'autre, il y a des contradictions. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce que l'on veut. On nous demande, y compris au niveau de l'aglo, d'apporter, de permettre de créer de l'habitat. Et à côté de cela, on a des rapports, et des rapports que l'État lui-même nous demande de contester avec lui. Allez y comprendre quelque chose. Au bout d'un moment, on vous a donné les explications à travers nos réponses faites à M. Bernard. Je prends acte de votre position, mais n'allez pas dire qu'on va atteindre la santé des habitants, parce qu'à ce moment-là, que dites-vous lorsqu'on nous demande sur une zone comme la prairie, c'est-à-dire juste à côté de la gare et juste à côté des voies ferrées, de créer 400 logements. Voilà. Et que nous, on dit, c'est beaucoup trop. Et que là, sur cette zone-là, encore une fois, si c'est l'État qui prend la main, ce ne seront pas 262 logements, Monsieur Dos Santos. Ce sera beaucoup plus dense. Alors, je ne comprends pas pourquoi... Si c'est l'État qui le fait, c'est normal et qu'il n'y a pas de problématique sur la santé, et que quand c'est la ville qui le fait en travaillant le maximum, y compris avec l'État, tout à coup, on est quasiment accusé d'atteindre la santé des rambolitains. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Je respecte votre position, mais quand même, je m'étonne qu'il y ait des différences ainsi.
Ce n'est pas compliqué à comprendre. Nous subissons effectivement un effet de rattrapage parce que le nécessaire n'a pas été fait pendant 23 ans, je le réaffirme.
Monsieur Dos Santos, nous avons été, ça a été salué de nombreuses fois, que nous étions déjà à 21,5% et qu'il y a tout de même peu de villes qui peuvent se féliciter d'avoir ce pourcentage de logements sociaux. Donc ça n'est pas du tout, comme vous le dites, un rattrapage, c'est une pression supplémentaire, parce qu'il y a la volonté du gouvernement actuel de dédensifier Paris et la Petite Couronne pour permettre à toute cette population de venir sur notre zone, en frontière, en Île-de-France frontière eurélienne. Donc, de toute façon, c'est une pression supplémentaire qui n'a jamais été connue auparavant. Et je peux vous dire que pour avoir regardé dans les archives, ça n'a jamais eu son égal.
Oui, alors je réitère. Alors d'abord, sur les 23 ans, on voit ceux qui se sont précipités vers les 25%, le résultat dans les banlieues. Mais ça, c'est juste un commentaire. Et que ça rejoint le préalable que je vous avais donné avec la CEMIR.
Les villes qui sont en difficulté.
De savoir qu'on
sont
voulait avoir. Au-delà. Laissez-moi parler, monsieur. Je vous ai laissé parler jusqu'à présent. Ce résultat, ça rejoint ce que j'ai dit avant de faire la présentation de la CEMIR, de la volonté politique de la commune de vouloir intégrer le logement social et donc de le répartir. D'autre part, je signale que la gestion des PLU est très encadrée par d'abord. Le schéma directeur de l'Île-de-France et actuellement celui qui va adopter comme le SDRIF E, par le SCOT de la région de Rambouillet, par le plan de parc et par un certain nombre de règlements, lesquels autorisent un certain nombre d'extensions urbaines beaucoup plus modérées que ce qui existait auparavant. Donc on admet de pouvoir construire dans les zones qui étaient constructibles jusqu'à un certain domaine, et en particulier dans le SDRIF E, on part des éléments de 2017 et on admet quelques poches de construction qui sont aujourd'hui faites pour pouvoir faire un développement économique, faire un développement mesuré de l'activité humaine sur les territoires, avec des règles très strictes d'encadrement par rapport à la manière de construire en matière de énergétique, en matière d'études sur les milieux que l'on construit. Le promoteur, en l'occurrence, a fait toutes les études qu'il fallait au niveau des milieux. Il a répondu à la MRAE par rapport à toutes les questions que vous avez posées. Donc aujourd'hui, ça a été fait par le promoteur. Ce n'est pas public, ces réponses-là, et elles ne sont pas publiées. Et comme disait Mme le maire, il y a une lettre qui va suivre de la DDT. La DDT m'a demandé de contribuer avec eux sur la réponse, ce que l'on va faire. de manière à ce qu'il y ait une concertation par rapport à l'ensemble des acteurs et non pas un diktat qui soit donné à un moment donné, vu de loin, juste sur un rapport, un préalable qu'a fait la MRE, elle a fait son boulot. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ces terrains sont constructibles, ils nous permettent d'aller dans les objectifs qui nous sont fixés, dans les objectifs qui sont faits par l'État, dans le respect des normes actuelles en matière de construction, dans le respect des normes environnementales actuelles, et elles sont respectées, la compensation des zones humides, un certain nombre de choses qui sont faites. Donc je suis désolé, quels que soient les rapports qui sont faits, on est dans les clous par rapport à l'ensemble de ce que nous avons comme impératif.
Alors juste, je vais passer la parole aussi à M. Gourlan, parce qu'il connaît bien le sujet, il a aussi eu quelques réunions au sujet de l'habitat. Juste préciser que, évidemment, ça ne fait jamais plaisir à personne quand on a l'impression qu'il y a des choses immuables, de voir des choses changer autour de chez soi. Mais c'est évidemment une évolution de la ville qui est nécessaire. Vous dites, c'est un rattrapage, monsieur Dos Santos. Oui, d'accord, mais le rattrapage, s'il n'y avait pas eu besoin de ce rattrapage, ça veut dire que cette zone-là aurait été construite et certainement de façon plus dense. Parce qu'aujourd'hui, au moins, nous pouvons y travailler avec tout un panel environnemental et de conditions qui sont meilleures. Donc, que vous parliez de rattrapage, moi je veux bien, mais si nous n'avions pas eu besoin de ce rattrapage, je peux vous dire que ça fait longtemps que cette zone-là aurait été construite, puisque, encore une fois, c'était une zone à urbaniser.
Je souhaite juste répondre à M. Petitpré en quelques mots. Je vous suis sur le fait que 50%, ce n'est pas du tout souhaitable. Les communes qui sont à 50, 60, 70%, on sait que les choses se passent mal. Ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, 25%, il me semble que c'est tout à fait gérable si la répartition sur le territoire se fait de manière correcte. C'est tout ce que je voulais dire.
Et justement, ce projet-là le permet.
C'est ce que je vous ai dit.
Monsieur Gourlan.
Monsieur Dos Santos, je suis un petit peu surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on aspire à avoir certaines fonctions municipales dans lesquelles vous siégez, et vous avez, je crois, certaines aspirations, il faut bien prendre en mesure de ce que veut dire le poste du maire d'une commune, de Madame Matillon, le poste d'élu et d'adjoint. Nous sommes dépositaires de la clause de compétence générale. Nous, ici, dans cette instance-là, nous avons pour vocation, et c'est notre mission, de trouver le juste équilibre, la ligne de crête entre toutes les contraintes que nous travaillons. Ça, c'est ça le métier de Madame le maire tous les jours, et c'est ça que nous traduisons nous aussi. Alors, se prévaloir d'un seul rapport du MRAE sur un sujet aussi complexe que ça, aussi large que ça, et de prendre simplement que cet aspect-là pour expliquer que vous allez voter, ou en tout cas vous ne pas aller dans notre sens, alors que, paradoxalement, dans votre propos, vous dites que nous ne sommes pas au quota de logement social. C'est tout à fait contradictoire dans vos propres propos. C'est-à-dire que vous dites, on n'a pas atteint les quotas, mais par contre, je ne vais pas voter le fait de pouvoir les atteindre parce que je m'appuie que sur une vision extrêmement parcellaire d'un projet et ne pas prendre l'entièreté de l'équation. Donc, je vous le dis, je vous invite vraiment à prendre une dimension un peu plus large dans votre réflexion, de ne pas prendre juste un angle d'attaque qui vous diminue, mais aussi d'essayer de vous porter au niveau de réflexion qui est celle de M. Petitpré et Mme Matillon.
Encore une fois, je prône une meilleure répartition du logement social sur le territoire, parce que si on observe bien, enfin tout le monde connaît la carte de Rambouillet, hein, on est d'accord. Si vous partez de Grenonvilliers jusqu'à la Giroderie en passant par la Louvière, je trouve qu'effectivement il y a un phénomène de concentration et non de répartition du logement social sur le territoire.
Alors justement, la contradiction, monsieur Dos Santos, avec ce que vous disiez, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas, justement, sur cette zone-là, on ne va pas à 50% de logements sociaux. Et on y fait attention. Et entre, justement, on étale vers une zone où il y a peu de logements sociaux. Donc, je ne comprends pas bien, parce que vous ne pouvez pas dire que c'est aussi dense au niveau de la Giroderie en logements sociaux que du côté de la Louvière. On est quand même déjà un peu au-delà et on va du côté de la Clairière. Donc justement, c'est un effort qui est fait pour étaler plus dans l'espace de Rambouillet, c'est ce qui nous est offert, hein, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui va venir après du côté de la prairie, parce que je peux vous dire que l'État surveille et que l'État est propriétaire à ce niveau-là. Donc voilà, c'est juste de la cohérence.
Et puis, je ne sais pas si vous connaissez bien la commune de Rambouillet, finalement, parce que vous êtes très restrictif au niveau de la position des logements sociaux sur la commune. Je vous signale qu'il y en a rue des Éveuses, rue Patenôtre, rue Lachaud, rue Gambetta, et je ne les cite pas tous, il y en a répartis sur toute la commune.
Et aujourd'hui,
dans le PLU, on va exiger que les nouvelles constructions en ville de moins de 15 logements soient strictement sociales, à 100%. Entre 2 et 15, et qu'il y ait une proportion dans les grands immeubles. Donc cet effort de mixité sociale et de répartition, non seulement il existe déjà, mais on veut le renforcer.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est pris? Eh bien, écoutez, c'est étonnant. Mais chacun est libre de son vote, bien sûr. Mais je pense que nous aurons d'autres débats et qu'on pourra rajouter cela sur la cohérence. Contrat 2014-2020,